Josué, le Messie, le Fils de Dieu, étude numéro 134. Cette étude traite de l'objet de l'adoration qui est Elohim. Le Fils, qui était l'Elohim d'Israël et Josué le Messie, est présenté dans le contexte biblique correct. L'utilisation dans la Bible du nom Josué est aussi discutée. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 6 versets 4 à 5. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Version Louis II. Ce texte est le Shama, ou Shama, du dictionnaire hébreu de Strong 80-85. Le titre est dérivé du mot Shama, qui signifie entendre, et qui est le premier mot du texte. La connotation d'entendre veut dire entendre et comprendre. Les mots sont en hébreu romanisés. Shama, Israël, Jéhovah, Elohenu, Jéhovah, Ehad. Entends, ô Israël, Yahovah, notre Dieu, Yahovah, est un. Le mot Dieu utilisé dans la traduction française est généralement compris comme la traduction de SHD, dictionnaire hébreu de Strong, 430, Elohim. Cependant, Elohim est un mot pluriel, qui peut aussi être utilisé au singulier. Le mot singulier pour Dieu est le mot plus correctement associé à ce terme est le singulier Eloha. Le texte de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, continue en utilisant le suffixe possessif dans Jéhovah Elohek, signifiant le Seigneur ton Dieu. Deutéronome, chapitre 6, verset 3, utilise le terme Jéhovah Elohi, signifiant le Dieu de tes pères. Ce sont des textes qui se réfèrent à un être singulier, mais Elohi peut impliquer le suffixe pluriel. Elohim est un mot pluriel. Eloha est un mot singulier n'admettant aucune pluralité. Eloha est Dieu le Père, de Proverbe 30, versets 4 à 5, qui a un fils. Ceux des élus qui ont la compréhension peuvent déclarer son nom. Ce Dieu, Eloha, est le Dieu très haut. Ce Dieu très haut ne demeure pas parmi les hommes. Voir Actes chapitre 7, verset 48. Nous sommes les serviteurs du Dieu très haut, voir Actes chapitre 16, verset 17, qui est identifié dans l'Ancien Testament comme le Dieu des patriarches. Personne n'a jamais vu ce Dieu ou entendu sa voix, voir Jean chapitre 1, verset 18, 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Le nom du Seigneur de l'Ancien Testament est Eloha. Esdras montre qu'Eloha est le Dieu du temple, à qui la maison est consacré. Voir Esdras chapitre 6 verset 16 à 17. Et l'objet de l'adoration. Voir Esdras chapitre 4 verset 24, chapitre 5 verset 1 à 2, verset 5 verset 8, verset 13 à 16, chapitre 6 verset 7 à 8. Et il est aussi l'objet de l'adoration à Jérusalem. Voir Esdras chapitre 5 verset 17, Esdras chapitre 6 verset 5. Eloha est le Dieu des cieux et de la terre. Voir Esdras 5, verset 11, Esdras chapitre 6, verset 9. Le sacrifice est fait à Eloha des cieux. Voir Esdras chapitre 6, verset 3 et verset 10. C'était Eloha qui a fait que son nom demeure à Jérusalem. Voir Esdras chapitre 6, verset 12. Les sacrificateurs sont placés dans leur division sous le souverain sacrificateur, et les lévites dans leur devoir pour le service d'Eloha. Voir Esdras chapitre 6, verset 18. Voir aussi l'étude de « Le Dieu que nous adorons », numéro 2. Eloha est Dieu comme créateur et le rocher du salut. Jeshurun a abandonné Eloha, qui l'a fait, et qui était le rocher de son salut. Voir Deutéronome 32, verset 15. Et il a sacrifié aux démons qui n'étaient pas Eloha ou l'objet légitime de l'adoration. Voir Deutéronome 32, verset 17. Seul Eloha est l'objet légitime de l'adoration, car il est l'objet du temple. Il est l'entité qui traite avec les fils de Dieu dans Job. Le nom Eloha apparaît 45 fois dans Job. Le nom Eloha n'a jamais l'article, bien qu'il soit déterminé par le suffixe dans Habakkuk 1, verset 11, et il est trouvé une fois dans la construction d'un psaume 114, verset 7. Marvin H. Pope, dans son ouvrage El in the Ugaritic Text, voir aussi Eloha, R. Laird Harris et autres, dans l'ouvrage Theological World Book of the Old Testament, Moody Bible Institute, Chicago 1980, page 43. Eloha ne se rencontre jamais en combinaison avec un autre nom divin, voir le même ouvrage. Eloha est identifié comme le Dieu de la révélation d'Exode 34, versets 6 à 7, comme nous le voyons de son utilisation dans Néhémie, chapitre 9, verset 17. Nous lisons dans Exode, chapitre 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Version 8 secondes. Par conséquent, le Yahovah, qui est passé devant Moïse, proclamait le El, qu'on savait être Eloha, le Dieu. Nous lisons dans Néhémie chapitre 9, verset 17. « Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. » Version 8 secondes. Daniel chapitre 11, versets 37 à 39 indique que le grand anti-dieu a un dieu ou Eloha qui est la force même. Eloha est donc vu comme le dieu approprié et l'objet de la confiance. Eloha est l'équivalent d'Elaha, le nom pour Dieu en araméen biblique. Ce dieu est le Tout-Puissant, comme nous le voyons de son utilisation dans Job. Eloha est la base pour le nom Allah dans l'islam. Eloha est rencontré trois fois en parallèle avec rocher, qui est un terme descriptif pour Dieu. Voir Deutéronome 32, verset 15, Psaume 18, verset 31, verset 32 dans la version H, Ésaïe, chapitre 44, verset 8. Inversement, Eloha est utilisé trois fois dans le contexte de terreur pour les pécheurs. Voir Psaume 50, verset 22, Psaume 114, verset 7, Psaume 139, verset 19. L'entité Eloha, le Père, est le Créateur et le Pourvoyeur de l'univers. Voir Genèse 1, verset 1, Néhémie 9, verset 6, Psaume 124, verset 8, Ésaïe 40, verset 26, verset 28, Ésaïe 44, verset 24, Acte 14, verset 15, Acte 17, verset 24 à 25, Apocalypse 14, verset 7. Toutes les choses ont été créées et existent par sa volonté. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11. « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Version 8 secondes. Cet objet de l'adoration de l'agneau et du conseil des anciens est le Dieu qui est le Père. Ce conseil des anciens est le gouvernement céleste de Dieu. Dieu avant le commencement. Dieu existait seul avant toute autre entité. Il était seul avant le commencement. Par conséquent, lui seul était préexistant. Nous lisons dans Ésaïe 43, verset 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. » Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Version 8 secondes. Avant lui, aucun aile n'a été formé, ni ne le sera après lui. Par conséquent, il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse 1, verset 8, la révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ, le Dieu déclare à Christ qu'il est l'alpha et l'oméga et le Tout-Puissant. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Version 8 secondes. Le Père, Eloha, est donc le Tout-Puissant, et l'objet de la création aussi bien que son Créateur. Il étend cette capacité au Messie au moment de sa venue, voir Apocalypse 22, verset 13. Cela a aussi été traité dans l'étude « Le début de la création de Dieu comme l'alpha et l'oméga », étude numéro 229. L'extension d'Eloha à Elohim comme structure plurielle est aussi reflétée dans l'utilisation de Yahovah, entre parenthèses le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3068, et Yahovi, SHD ou dictionnaire hébreu de Strong 3069. Il y a de multiples êtres qui sont appelés Yahovah, aussi appelés Jéhovah ou Yahweh par certains dans l'Ancien Testament. Yahovah est considéré comme le Dieu national d'Israël et il est mentionné Adonai par les Juifs lorsqu'ils lisent le nom. Yahovi est considéré comme le Dieu et il est mentionné comme Elohim par les Juifs lorsqu'ils lisent les textes. Il est question de deux êtres. C'est pourquoi Yahovah a été changé à Adonai 134 fois dans l'Ancien Testament par les Sophérim. Yahovah est un titre délégué s'étendant à des êtres multiples, comme cela a été le cas quand trois Yahovah sont apparus et ont parlé à Abraham avant la destruction de Sodome, et deux d'entre eux sont allés rencontrer Lot à Sodome. Il y avait un quatrième Yahovah au ciel qui a fait pleuvoir du feu sur Sodome. Comparez Genèse 19, verset 24. Ces textes ont été changés par les Sophérim. Comparez l'annexe 32 de la Companion Bible. Comparez aussi l'étude « Questions fréquemment posées » Série 1, la nature de Dieu, numéro 3. La question entière du début du temps est examinée dans l'étude de gouvernement de Dieu, numéro 174. Il existe un point à partir duquel l'esprit est devenu relatif et non simplement manifesté dans l'essence divine, comme un attribut de Dieu. Dieu a existé dans son éternelle perpétuité. Lui seul était immortel, voir 1 Timothée 6, verset 16. Dieu est le roi des siècles. Voir 1 Timothée 1, verset 17. Comparez le texte grec du livre de Tobit, chapitre 13, verset 6, verset 10. Et Dieu des siècles, du grec Theos ton Aeonion, comparez le livre ecclésiastique, chapitre 36, verset 17, Ésaïe, chapitre 9, verset 6, Jérémie, chapitre 10, verset 10. L'activité de création de Dieu a commencé la relativité de l'esprit et de là le temps. Dieu a étendu la capacité d'être immortel aux enfants de Dieu dès leur création. Le temps a débuté avec la création d'un esprit indépendant ou se déplaçant librement comme intelligence, réagissant avec Dieu. Le commencement. Dieu a commencé à créer. Le premier acte de création par génération était ses fils qui ont formé les Elohim. C'était la création spirituelle. Ces fils de Dieu étaient multiples. L'Esprit Saint était la puissance ou l'essence divine qui reliait ces Elohim et qui leur a permis d'être un avec Dieu. Voir les études d'Esprit Saint, numéro 117, la vie éternelle, numéro 133, l'immortalité, numéro 165, l'étude consubstantielle avec le Père, numéro 81, le sexe de l'Esprit Saint, numéro 155, l'étude de les oracles de Dieu, numéro 184, Dieu notre Sauveur, numéro 198. Le temps a commencé à la création de l'armée. Voir aussi l'ouvrage d'Augustin, La Cité de Dieu, et aussi l'étude de La Cité de Dieu, numéro 180. Le conseil des Elohim en tant que fils de Dieu. Les fils de Dieu ont été arrangés dans une structure. Ils étaient gouvernés par un conseil, qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Il consiste en 29 entités, qui entoure le trône de Dieu. Il y a 24 anciens sous un souverain sacrificateur. Il y a aussi 4 séraphins, appelés des êtres vivants à cause de leur tête. Satan était le chérubin protecteur oint au-dessus du trône de Dieu. Ézéchiel 28, verset 14. Ce conseil est appelé le conseil des Elohim, ou le conseil des dieux. La création physique a été entreprise par les Elohim. Nous lisons dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Version Louis II. Pourtant, la terre était sans forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voir Genèse 1, verset 2. Les Elohim ont créé l'homme à l'image des Elohim, selon leur ressemblance. Nous lisons dans Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Version Louis II. Ici, les Elohim décident de créer l'homme, entre parenthèses, Adam, sans l'article, de là l'humanité, à leur image. Le verset 27 réduit alors au singulier celui qui crée. L'homme créé ici est Adam, avec l'article de là, l'Adam. Il y a donc deux aspects à cette création. La création est alors établie, celle des cieux et celle de la terre, Genèse 2, verset 1. Nous savons de Deutéronome 32, versets 8 à 9, que Dieu Très-Haut a réparti les nations d'après les fils de Dieu, Péné et Lim, voir les manuscrits de la mer morte, ou les anges de Dieu, Aguelon, Théou, voir la Septante. Le texte massorétique a été changé à un moment donné après Christ, pour lire d'après le nombre des enfants d'Israël. Nous lisons dans Deutéronome 32, versets 8 à 9, « Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et la part de son héritage. » Version Louis II. La version de la Bible, Revised Standard Version, reconnaît le texte correct dans sa traduction. Il y avait de multiples fils de Dieu, voir aussi la préexistence de Jésus-Christ, numéro 243. Les étoiles de Dieu. Le Dieu Très-Haut est identifié comme le Père et le Créateur de Deutéronome 32, verset 6. Nous lisons dans Deutéronome 32, verset 6 à 7. « Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. » Version Louis II. Ainsi, le Très-Haut est le Père, et les fils de Dieu sont les anciens. Yahovah, dans ce texte, est le Dieu subalterne d'Israël. Yahovah est donc une autorité dérivée du Dieu Très-Haut, qui est le Père. Il a alloué les Elohim aux nations, d'après leur nombre, qui est en fait 70. Il y a un conseil intérieur et un conseil extérieur des anciens, ou Elohim. Yahovah a un siège dans le conseil. Il a été oint comme le Dieu d'Israël pour établir le plan de salut de Dieu qui a été rendu nécessaire du Jardin d'Éden et par la rébellion de l'armée quand Satan avait été placé sur le Jardin d'Éden comme le chérubin ou l'étoile du matin ou l'étoile du jour. Voir l'étude de la doctrine du péché originel, partie 1, le Jardin d'Éden, numéro 246. Ce rang d'étoile du matin était multiple à partir de la création et il est étendu à Christ et aux élus. Nous lisons dans Job 38, versets 4 à 7. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Version Louis II. Une étoile devait sortir de Jacob, d'après Nombre, chapitre 24, verset 17. Elle devait remplacer l'étoile qui est tombée du ciel, voir Apocalypse 8, verset 10. Cela symbolise Christ remplaçant Satan en tant que l'étoile du matin. Voir aussi l'étude Lucifer, porteur de lumière, étoile du matin, numéro 223, le but de la création et du sacrifice de Jésus-Christ, numéro 160, le début de la création de Dieu comme l'alpha et l'oméga, numéro 229. L'étoile du jour ou l'étoile du matin doit se lever dans nos cœurs, voir 2 Pierre 1, verset 19. Nous recevons de l'étoile du matin à travers Christ, Apocalypse chapitre 2, verset 28, Apocalypse chapitre 22, verset 16. Tous sont subalternes au Dieu Très-Haut. Le Fils qui était l'Élohim d'Israël. Israël a compris cette relation d'Élohim supérieur et subalterne. Le Père était considéré comme le supérieur ou le Dieu très haut. Il était seul comme Eloha, le El des El. Le Fils de Dieu, oint comme Yahovah ou Elohi d'Israël, était subalterne. Nous lisons dans Psaume 45, versets 6 à 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Version 8 secondes. L'entité ici était l'Élohim d'Israël que nous savons être Jésus-Christ. Nous lisons dans Hébreux chapitre 1 verset 8 à 9 « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Version Louis II. Jusqu'à son incarnation, le statut de Jésus-Christ était comme un des Elohim. Il était le porte-parole des Elohim, et quand il agissait, c'est comme s'ils agissaient. Il a été promu au-dessus de ses compagnons à sa résurrection, comme Fils de Dieu avec puissance par l'Esprit Saint. Nous lisons dans Romains, chapitre 1, verset 4. « Et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Version 8 secondes. Cette pluralité des Elohim est vue à partir du commentaire du Philistin. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 8. « Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. » Version 8 secondes. Les dieux puissants ici sont littéralement une pluralité d'Elohim eux-mêmes. Par conséquent, Yahovah a parlé pour les Elohim. Le Fils de Dieu en charge d'Israël a agi avec l'autorité et selon l'ordre du conseil, qui étaient ses partenaires, en grec « metoxus », voir Psaume 45, verset 6 à 7 dans la version 70, Hébreu 1, verset 8 à 9. Les nations comprenaient aussi la pluralité des Elohim. Nous lisons dans le premier livre des Rois, chapitre 20, verset 10. Ben-Hadad envoya dire à Achab « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. » Version 8 secondes. Les dieux sont ici les Elohim. Ben-Hadad a donc reconnu les Elohim. Yahovah d'Israël juge parmi les Elohim. Nous lisons dans Psaume chapitre 82, verset 1, Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Version 8 secondes. Ici, Elohim a pris sa place parmi les dieux ou elle. Il juge parmi les Elohim. Le texte poursuit en étendant le statut de fils à l'armée entière. Comme nous le savons, Irénée a compris que le statut s'étend aussi aux élus. Voir l'étude de la première théologie de la divinité, numéro 127. Nous lisons dans Psaume 82, verset 6. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Version 8 secondes. Parmi les Elohim, il est maintenu qu'il n'y en a pas un qui ressemble à Yahovah, Jéhovah, traduit ici comme Seigneur. Nous lisons dans Psaume 86, verset 8, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Version 8 secondes. Josué ou Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il est important que nous comprenions ce qui arrive dans le Nouveau Testament et d'où vient le nom de Jésus et ce que son utilisation a pour but de réaliser. Jésus n'était pas le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire du Messie. Son nom était Yoshua ou Joshua dans l'utilisation anglaise, ou Josué dans l'utilisation française. Ce n'est pas un J dur, mais un J doux. Le nom Josué a été cohérent dans l'utilisation française pendant des milliers d'années. Il s'applique aux personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le grec du Nouveau Testament utilise les formes qui ont été retrouvées dans la traduction de la Septante, des écritures hébraïques, qui ont été traduites à Alexandrie, environ 300 ans avant Christ. Les écritures de la Septante constituaient un accomplissement tout à fait remarquable. Elles ont des formes grecques standards pour les mots hébreux. Iesus est le grec de la Septante pour le mot Joshua, Josué, ou Yoshua, des écritures de l'Ancien Testament. La Septante était la Bible du Nouveau Testament. La plupart des citations du Nouveau Testament sont de la version Septante. La Septante était acceptée comme l'écriture à l'époque de Christ. Elle a été attaquée seulement après la destruction du Temple par le système pharisaïque, c'est-à-dire le système rabbinique, qui est devenu le successeur du système pharisaïque à un moment donné au IIe siècle. À l'époque de Christ, la Septante était considérée par tous pour être l'écriture. En effet, elle forme la base du Nouveau Testament. Les mots grecs dans la Septante ont été utilisés pour les noms des personnages dans l'Église du Nouveau Testament, et ce grec a été par la suite traduit en français beaucoup plus tard. Plusieurs siècles plus tard, nous avons développé les versions françaises et anglaises du Nouveau Testament. Maintenant, le problème vient du fait que le mot « Joshua » a été traduit du mot utilisé en grec pour « Joshua » qui est rencontré plusieurs fois dans le Nouveau Testament, qui correspond à plusieurs personnages différents et qui est traduit de différentes façons. Par exemple, dans la version King James Version, le mot pour « Joshua » rencontré dans Hébreux 4, verset 8 a été constamment traduit comme « Jésus ». De sorte que le mot « Joshua » partout dans le Nouveau Testament a été traduit « Jésus » du grec « Yesus » pour Josué, Joshua. Mais Hébreux 4, verset 8 se réfère à Josué, le fils de Nun, et il est reconnu par toutes les autres Bibles comme se référant à Josué, le fils de Nun. Dans les notes à la Companion Bible, Bullinger reconnaît qu'Hébreux 4, verset 8 ne se réfère pas à Jésus, dans le sens de Christ, mais à Josué, le fils de Nun. L'autre Josué, appelé Justus, dans Colossiens, est aussi mentionné comme Jésus appelé Justus. Colossiens 4, verset 11. Nous avons la généalogie de Christ. Dans Luc chapitre 3, verset 29, nous lisons que Jésus était le fils d'Éliézer. Maintenant, ce mot traduit Jésus est le mot grec pour Joshua, à savoir Jésus. Personne ne suggère sérieusement que Jésus, le fils d'Éliézer, et le père d'Er, soient en réalité appelés Jésus. C'est simplement la façon grecque d'écrire Joshua en utilisant la règle établie par la Septante. La King James Version déguise ce fait en se référant à Josué ici comme Jos. Cette règle pour la traduction grecque de Joshua est suivie dans Hébreux 4, verset 8 et ailleurs. Il y a une autre personne appelée Yesus qui a été traduite par un autre nom. Parmi les variations de Joshua, il y a la pleine version Yahoshua ou Yahoshua et aussi Yeshua, Yeshua, Hosea, Hosea, Hosea. Mais les distinctions sont également faites en hébreu. On peut voir l'utilisation comparative dans la Septante à partir d'un examen de chaque cas du mot Yahoshua ou Yahshua dans l'Ancien Testament hébreu qui est rendu en français comme Josué. Dans chaque cas, Josué est rendu Jésus ou Yesus dans le grec. Le mot Jésus est une translittération du grec et il n'est pas la traduction correcte du nom en français pour une raison de cohérence. Le fait est que le mot Yesus est le grec pour Josué, Joshua. Et quand vous traduisez le grec en français en utilisant ces écritures hébraïques, la Septante forme la règle. Les règles des noms font qu'elles doivent être utilisées dans le sens français accepté lorsque les écritures hébraïques sont traduites en français. Ainsi, sous les règles de la Septante, quand on rencontre Yesus dans le Nouveau Testament, cela se réfère à Josué, qui a été l'application standard du nom pendant des siècles. Dans la traduction de la King James Version en anglais et de la Louis II en français, les érudits trinitaires ont essayé de faire une distinction entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament et de divorcer les personnages et les gens dans le Nouveau Testament de ceux de l'Ancien Testament, de sorte que la continuité du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament a été déguisée. De cette façon, une division pourrait être faite dans la Bible dans l'application de la loi. La loi de Dieu de l'Ancien Testament a été dissociée de ce qui arrivait dans l'événement Christ, l'événement messianique de Josué, le Messie dans le Nouveau Testament. Ils l'ont donc appelé Jésus le Christ, ce qui signifie Jésus le Oint. Josué le Messie signifie Josué le Oint. Par conséquent, le terme tel qu'il s'applique au Oint est rendu Messie en français dans l'Ancien Testament et il y avait donc plus qu'un Messie. Josué est donc la forme correcte du mot grec « Yesus ». Si vous êtes grec, alors dans votre structure phonétique, vous vous référez sans doute toujours à la structure du Nouveau Testament en grec, et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez toujours, ou devriez lire Josué comme Yesus pour la cohérence, parce que c'est ce qu'il y a dans la Septante. Nous ne sommes pas concernés par la conversation en grec. Nous sommes concernés par la conversation en français dans les traductions françaises, faisant mention des personnages de la Bible, afin qu'une structure claire et cohérente soit développée et que le Nouveau Testament ne soit pas divorcé de l'Ancien Testament. Il existe une Bible totalement interdépendante pour l'autorité et la cohérence. Il est extrêmement important que nous comprenions tout ce fait. Quand la Bible est traduite, il est extrêmement important que les noms des personnages dans le Nouveau Testament soient aussi traduits correctement. Ils portent alors les noms que ces personnages auraient dans l'Ancien Testament dans la langue de la traduction, que ce soit en russe, en ukrainien, en français, en allemand, en hollandais ou toute autre langue. Il est simplement malhonnête de faire ces distinctions et cela ne sert aucun autre but que pour soutenir la théologie trinitaire antinomienne qui était à l'origine la raison première de ces traductions manipulées. Il est important de rétablir la vraie intention et la vraie structure des Écritures. Josué était le nom de Christ, le Messie, parce qu'il signifie le salut de Dieu. Josué, le fils de Noun, était appelé le salut de Dieu, le fils de l'endurance, signifiant que le salut vient de l'endurance. La signification du nom du Messie était le salut vient comme le Fils de Dieu. Le salut de Dieu vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Messie devait être appelé Yahoshua ou Josué en français et pourquoi le nom Jésus cache ce fait. Par exemple, quand nous parlons de la mère du Messie, nous voyons que son nom était Mariam et ce de façon consistante à travers le Nouveau Testament. Le nom de sa sœur était Maria. Le nom Marie est un nom qui n'apparaît pas du tout dans le Nouveau Testament. C'est une francisation de Maria. Mais Maria n'était pas la mère de Christ. Dans chaque cas, sauf un, où il y a une variation plus courte utilisée, Mariam est le nom de sa mère et Maria est le nom de sa tante. Son père était Joseph. Nous le comprenons. Ils n'ont aucun problème à utiliser le nom de Joseph. Mais quand il parle des frères de Christ, au lieu d'appliquer les noms normaux en français pour ses frères, il les déguise. Ces points doivent être reconnus. Nous les examinerons dans le commentaire d'introduction à la Bible, et particulièrement au Nouveau Testament, quand nous établirons les noms et expliquerons leurs utilisations. Ça ne sert à rien de continuer à perpétuer une fiction de l'établissement de l'Église trinitaire, qui a fait plus de tort à la compréhension de la théologie de la Bible et des lois de Dieu, qu'aucune autre institution dans le monde francophone. Christ les rejetterait et les rejettera en tant qu'hérétiques. Cela ne signifie pas que nous devons les suivre dans leurs erreurs. La vérité de la Bible doit être rétablie clairement et avec cohérence. Le Dieu des dieux. Le Seigneur est un grand El et un roi au-dessus de tous les Elohim. Nous lisons dans Psaume 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Version 8 secondes. Les Elohim des nations sont considérés comme un rien. Entre parenthèses, traduit comme idole. Nous lisons dans Psaume 96, versets 4 à 5. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Version 8 secondes. Le Seigneur ici est Yahovah, qui est exalté par-dessus tous les Elohim. Cela soulève quelques aspects importants au sujet de Yahovah, Jéhovah, en tant que terme, comme nous l'avons vu auparavant. Nous lisons dans Psaume 97, versets 7 à 9. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Ô Éternel! Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, sur toute la terre. Tu es souverainement élevé, au-dessus de tous les dieux. Version 8 secondes. Yahovah est identifié ici comme le Très-Haut. Par conséquent, nous parlons de deux entités, Yahovah d'Israël et Yahovah le Très-Haut. Ce Yahovah, ou Jéhovah Très-Haut, est au-dessus de tout Elohim. Le souverain sacrificateur est le Dieu des dieux. Nous lisons dans Psaume 135, verset 5, « Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » Version 8 secondes. Adonim, ou notre Seigneur, est ici l'entité qui est au-dessus de tout Elohim. D'où la prééminence est ici étendue à l'Elohim d'Israël. Il est donc affecté comme souverain sacrificateur des Elohim. Il n'est pas cependant L'Elohim des Elohim s'est réservé pour Eloha ou Yahovah très haut. Nous lisons dans Psaume 136, verset 2. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Version Louis II. Lui seul est l'Adonim des Adonim, ou le Seigneur des Seigneurs. Il a créé par délégation, d'où la pluralité du texte dans Jérémie 10, versets 10 à 11, où nous lisons « Et l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Version Louis II. Il y a un seul vrai Dieu, comme nous le voyons. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Les Elohim avaient donc une variété de rôles dans la création. Le seul vrai Dieu a fait la terre par sa puissance et sa sagesse. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 10, versets 12 à 13. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Version Louis II. Cet acte de création a été effectué par Dieu. Certains aspects de la création ont été effectués par le Messie, le premier engendré de la création. Cependant, un aspect a besoin de clarification. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 3, verset 9. « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Les mots « dia Jesu Christu » ou « par Jésus-Christ » sont incorrects. Les mots sont dans le texte Receptus, ou texte reçu, et de là dans la version King James, et certaines traductions, mais ils n'apparaissent pas dans les textes anciens. Ils n'apparaissent pas dans les versions modernes de la Bible. La version Louis II relate correctement le texte. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 3, verset 9, « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Version Louis II. Nous lisons aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Version Louis II. Notez que le verset dit qu'il, entre parenthèses, c'est-à-dire Christ, est le commencement. La structure administrative du système céleste ne devrait pas être confondue avec les entités des Elohim elles-mêmes. L'arché mentionné dans Colossiens a pour but de détruire l'argument de la création du monde par la matière, qui elle-même était considérée un arché, voire l'étude l'Esprit Saint, numéro 117, et le développement du modèle néoplatonicien, numéro 17. C'était la génération de Christ et des fils de Dieu qui était le début de la création de Dieu. C'est de ce début de la création de Dieu dont il est question dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. La plénitude de la divinité était heureuse de demeurer en Christ. Par conséquent, Christ est un instrument de Dieu comme début de sa création. Il a été le premier né d'entre les morts afin qu'il puisse avoir la prééminence en toutes choses. Cependant, toutes les choses ont un Père et une origine et un Créateur qui est le seul vrai Dieu. Nous lisons dans Malachie chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Version Louis II. Le Père est l'Éternel des armées, voir Malachie chapitre 1, verset 6. Il étend la position de paternité aux Elohim par délégation. Ésaïe chapitre 9, verset 6 étend la paternité au Messie. Il y a plusieurs paternités, du grec patria, dans les cieux et sur la terre, et ils sont nommés d'après le Père. Voir Éphésiens 3, verset 14. Nous lisons dans Éphésiens 3, verset 14 à 15. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Version Louis II. L'incarnation. Le livre aux Hébreux, chapitre 1, verset 6, se réfère au premier être engendré à voir le jour. Cette entité, le premier engendré prototokos de chaque créature de Colossiens 1,15, est identifié comme le Fils. Le Fils est aussi le prototokos de Mariam, ou Marie, voir Matthieu 1, verset 25, Luc 2, verset 7. Le Fils était aussi le prototokos parmi beaucoup de frères. Le terme s'applique donc au premier dans une série qui est identifié par le qualificateur. Certains trinitaires essaient d'affirmer que Mariam, appelée Marie, n'avait aucun autre enfant. C'est faux. Christ avait des frères et des sœurs. Voir Matthieu 13, versets 55 à 56. Comparer l'étude de la Vierge Mariam et la famille de Jésus-Christ, numéro 232. Les noms des frères de Christ étaient Jacob, appelé Jacques par les païens, Joseph, appelé d'après son père, Judas, appelé d'après sa tribu, appelé Jude et Simon. Nous n'avons aucun enregistrement historique des noms de ses sœurs, mais les noms de ses frères sont tout à fait clairs et distincts. Et ils sont en français les noms retrouvés dans l'Ancien Testament. La raison pour laquelle ils ont été changés est évidente. C'est pour nier que Christ avait eu des frères et des sœurs, et ainsi élevé Mariam au niveau du personnage de la déesse mère du système de Easter Pâques. Nier que Mariam, Marie, avait eu d'autres enfants est un peu incommode quand vous avez Joseph mentionné comme le fils de Mariam, un des frères de Christ, et le nom de son père était Joseph. Il est tout à fait évident qu'il portait le nom de son père. Ce sont les noms de famille que vous vous attendriez à rencontrer dans la famille de Christ. Le Messie est aussi le premier-né d'entre les morts. Il est ainsi le commencement, la tête du corps. Dans ce même contexte, il était aussi le début de la création de Dieu. Voir Apocalypse 3, verset 14. La structure entière a été créée par Dieu par délégation. Il a donc été créé pour réaliser le plan de Dieu, tout comme la création entière. La prééminence du Messie est acquise du plan de Dieu et par l'ordre de Dieu. Voir l'étude des débuts de la création de Dieu, comme l'Alpha et l'Oméga, numéro 229. Nous savons de Jean, chapitre 17, verset 3, et de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, que ce seul vrai Dieu est le Père, et que Jésus-Christ est son Fils. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Version Louis II. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Version Louis II. Le seul vrai Dieu est la vie éternelle. Cette compréhension nous a été donnée par le Fils de Dieu, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et être en celui qui est vrai, et en son Fils Jésus-Christ ou Josué le Messie. Ce seul vrai Dieu est la vie éternelle, lui seul est immortel. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6 verset 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Version Louis II. Le Messie a dû abandonner la vie éternelle que le Père lui avait conférée et assumer une forme humaine. Il a donné sa vie par ordre du Père, et la reprise de nouveau par ordre du Père, voir Jean 10, versets 17 à 18, où nous lisons. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Version Louis II. Dieu donne donc la vie à toute chose. La deuxième venue. La manifestation du Fils de Dieu se fait au temps approprié, pour le seul souverain qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et qui seul a l'immortalité. Voir les études, la vie éternelle numéro 133 et l'immortalité numéro 165. Il délègue ses aspects au Fils, afin d'établir le royaume de Dieu, comme nous le voyons d'Apocalypse chapitre 17 verset 14 et d'Apocalypse 19 verset 16. Ces noms sont établis sur le vêtement et la cuisse du Messie. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Version Louis II. Dieu agit à travers le Fils de Dieu en tant que souverain sacrificateur désigné. La parole de Dieu est le Fils de Dieu. Celui-ci était avec Dieu au commencement. Celui-ci était avec ou vers le Dieu, en grec ton théon, et celui-ci était théos ou Elohim. Nous savons que cet Elohim est subalterne. De Psaume 45, verset 6 à 7, d'Hébreu 1, verset 8 à 9. Paul reconnaît qu'il n'y a aucun Dieu théos sauf un. Mais il y avait plusieurs dieux, théoi, théoi poloi, et seigneur kurioi, dans les cieux. Toutefois, il y avait seulement Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Voir 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 5 à 6, voir l'interlinéaire de Marshall. Tout le système sera consolidé sous ses entités et le système du temple sera reconstitué dans son état original, tant aux cieux que sur la terre. Dieu a choisi d'agir par délégation à son saint, qui a à son tour oint le roi d'Israël, comme nous le voyons du psaume 89, versets 18 à 20. Nous lisons dans psaume 89, versets 18 à 20. « Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » Version Louis II. La version Revised Standard Version semble déformer ce texte, peut-être à cause de ses implications. Entre parenthèses, voir l'interlinéaire de Green, pour le texte principal. Le système céleste a été reproduit dans le temple terrestre d'Israël du tabernacle, qui a culminé avec le temple de Salomon. Nous lisons dans Hébreux chapitre 8, verset 5. « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Version Louis II. Nous voyons aussi qu'il y avait deux chérubins protecteurs, oints ou chérubins dans le tabernacle, voir Exode 25, versets 18 à 22, couvrant les deux sur l'arche de l'Alliance. Les chérubins incluaient aussi les quatre êtres vivants. Cependant, il y en avait seulement deux, le chérubin à tête d'homme et celui à tête de lion, dans la section extérieure du temple d'Ézéchiel, de chaque côté du palmier qui est Christ, voir Ézéchiel 41, verset 19. Satan avait été placé avec un chérubin gardien oint sur la montagne de Dieu, voir Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14 à 18. « Or, je t'avais placé avec un chérubin ayant rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte. C'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres aux feux étincelants. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne, et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres aux feux étincelantes. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli, et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Par tes nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires, et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous. » Version BDS. Satan est ici appelé le roi de Tyr. Il a été précipité sur la terre. Il était le porteur de lumière, ou Lucifer, l'étoile du matin ou l'étoile du jour de cette planète. nous lisons dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Version 8 secondes. Ici, le porteur de lumière ou l'étoile du matin a essayé de s'élever au-dessus des étoiles de Dieu et d'être comme le Très-Haut. Satan n'était pas satisfait d'être une des étoiles de Dieu et un fils de Dieu comme chérubin protecteur oint. Il a voulu être Dieu, le Très-Haut. Pas satisfait d'avoir la forme de Dieu, possédant la nature divine, Satan a voulu saisir l'égalité avec Dieu. Il a été précipité sur la terre pour cette raison. Il a toutefois conservé l'accès au trône de Dieu. Nous lisons dans Job, chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Version 8 secondes. Ces fils de Dieu s'étaient rebellés contre la volonté de Dieu de l'autre côté du fleuve, déluge, comme nous le voyons dans Josué 24, versets 14 à 15, où nous lisons « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Version 8 secondes. La rébellion était un processus en cours, comme nous le voyons de la conduite des anges. Lisons dans Genèse chapitre 6, versets 2 à 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Version 8 secondes. Ces fils de Dieu formaient l'armée rebelle. Ils ont quitté leur état premier, et ils ont suivi leur désir sexuel. Nous lisons dans Jude, versets 6 à 7, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Version 8 secondes. Christ n'a pas cherché à saisir l'égalité avec Dieu, mais il a donné sa vie sur l'ordre de Dieu. Nous l'examinons ci-dessous. Il l'a fait pour réconcilier l'armée en tant que souverain sacrificateur. Melchisédek était considéré comme le sacrificateur du Dieu Très-Haut, voir l'étude Melchisédek numéro 128, et le Messie était vu comme un sacrificateur également à perpétuité d'après l'ordre de Melchisédek, voir psaume 110 verset 4, Hébreux 7 verset 1 et verset 11. Ce Seigneur, qui était le Seigneur de David, était celui mentionné dans psaume 110 verset 1, à qui il a été dit de s'asseoir à la droite du Seigneur, jusqu'à ce qu'il ait fait des ennemis du Seigneur de David, qui est le Messie, son marchepied. Ce Seigneur, qui était le Messie, a été consacré par le Seigneur, comme sacrificateur à perpétuité, d'après l'ordre de Melchisédek. Cette entité, le Seigneur mentionné ici, est Dieu le Père, qui est le Seigneur du Messie, et il est certain que ce texte se réfère à lui, d'après Hébreux. La Sonne Sino note aussi que ce texte se réfère au Messie. Christ, ou le Messie, est identifié comme le Fils du Dieu Très-Haut dans le Nouveau Testament, dans Marc 5, verset 7, et Luc 8, verset 28. Le Messie a assumé une existence humaine afin d'être un sacrifice. Cela a été préfiguré dans le sacrifice du Temple des expiations au cours duquel le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints une fois par an avec un sacrifice de sang. Le Messie a fait cela, comme nous le voyons dans Hébreux. Cette offrande du sang devait réconcilier l'armée avec Dieu, par la nature de Dieu qu'il avait donnée à l'armée. La rébellion avait rejeté cette façon de penser et de vivre, qui est la voie de Dieu. Christ n'était pas égal à Dieu. mais il était obéissant, comme un fils. Cela est reflété dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, où nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Version lui selon. La signification est que l'égalité avec Dieu ne devait pas être saisie, comme Satan avait essayé de faire. Le terme grec « arpagmon » ici signifie l'acte de s'emparer ou une chose à s'emparer, d'où butin ou prix. Taylor observe cela, voir l'ouvrage page 74, et explique la signification de Philippiens chapitre 2 verset 6 sous « morphe », voir son ouvrage donc page 418. Ce sens d'égalité n'était pas vu comme quelque chose à laquelle s'accrocher ou à retenir. La révision de la American Standard Version, de la King James Version, publiée en 1901, a révisé le texte de Philippiens, chapitre 2, verset 6, pour corriger l'erreur du texte autorisé ou texte reçu. Elle lit « Ayez cet esprit en vous, qui était aussi en Christ Jésus, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas compté d'être sur un pied d'égalité avec Dieu, une chose à être saisie, mais s'est vidé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, en se faisant dans la ressemblance des hommes. » La Bible Jewish New Testament, traduction de David Stern, rend le verset 6 comme « Quoi qu'il soit en forme de Dieu, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu, quelque chose à être possédé par la force. » Les fils de Dieu étaient tous reconnus comme des anges ou des messagers du Dieu Très-Haut. Ils n'ont rien fait par leur propre autorité. Toute leur activité était conformément à la volonté de Dieu, voir Luc 11, verset 2, Jean 5, verset 30. Nous lisons dans Jean 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Version lui second. L'Elohim d'Israël était un ange. Il est apparu à Abraham, et il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Elohim d'Israël était aussi l'ange de la rédemption, comme Jacob nous le dit. Nous lisons dans Genèse 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. Version lui second. Bien qu'il fût en contact avec les anges, et que ceux-ci fussent plusieurs, il a parlé de l'ange de la rédemption au singulier. Nous lisons dans Genèse 48, verset 13 à 16. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite, et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu, en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. » Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du peuple. Version lui second. L'ange de Yahovah, Jéhovah, est identifié comme le Messie et aussi comme Elohim et le Fils de Dieu. Voir l'étude l'ange de YHWH numéro 24. Il est venu comme rédempteur par son incarnation. Il est ainsi le chef des élus qui sont la maison de David sous le Messie comme Elohim. Zacharie chapitre 12 verset 8 indique que cet Elohim était aussi l'ange de Yahovah. Nous lisons dans Zacharie chapitre 12 verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. L'ange du Seigneur est Jéhovah dans ce texte, voir l'interlinéaire de Green. Le mot pour Dieu dans ce texte est Elohim. Ce texte démontre que l'Elohim des textes était aussi l'ange de Yahovah, ou YHWH, et que la maison de David, autrement dit les élus, seront des Elohim. L'Elohim, qui est le chef de la maison, est le Messie. Le Messie est ici devenu le monogénès Théos, ou seul Dieu né, de Jean 1, verset 18. Bien qu'il fût le prototokos des fils de Dieu, les Elohim, il est devenu, à sa mort, le seul fils à être né, et par conséquent, le seul Dieu né ou le monogénès Théos. le texte Receptus Amonogenes Huion, ou le seul fils né. D'une façon ou d'une autre, il est le seul Dieu et le seul fils à être né. Tous les autres fils sont demeurés des esprits. Nous n'avons pas été nés comme fils, mais nous sommes les fils de l'adoption. Par conséquent, il y a un Elohim supérieur et des Elohim subalternes. L'Elohim supérieur était connu comme Dieu très haut ou le Dieu très haut, Genèse 14, versets 18 à 20 et verset 22. Deutéronome 32, verset 8 montre que le Dieu très haut a divisé les nations. Comme nous l'avons vu, d'après le texte massorétique, cela a été fait d'après le nombre des enfants d'Israël. Cependant, la Septante lit d'après le nombre des anges de Dieu. Les manuscrits de la Mère Morte montrent que la signification de l'hébreu était d'après les fils de Dieu, ou des dieux, ou les Béné Elim. Israël est devenu la portion de Yahovah, Jéhovah. Cela nous mène à la distinction entre les deux Yahovah. La Bible est claire qu'il y a deux Yahovah. Yahovah très haut d'une part, et Yahovah d'Israël et les autres êtres qui portent ce titre d'autre part. Comme nous l'avons aussi observé plus tôt, Strong note la distinction entre Yahovah très haut et Yahovah d'Israël. La distinction dans les noms est que Yahovi se réfère au supérieur et Yahovah se réfère au subalterne lorsqu'il est utilisé seul. Quand Yahovah est utilisé pour le supérieur, il est d'habitude accompagné par un qualificatif comme Yahovah des armées. Les nombres appropriés sont du dictionnaire hébreu de Strong 3068 et 3069. Strong dit de SHD dictionnaire hébreu de Strong 3068 Jéhovah que c'est le nom national juif de Dieu. Il dit que SHD dictionnaire hébreu de Strong 3069 Jéhovi est utilisé après Adonai. Il est ainsi le Seigneur Yahovi et prononcé par les Juifs comme Elohim pour empêcher la répétition du même son puisqu'il prononce ailleurs SHD 3068 comme SHD 136 Adonai. Cet être est Dieu. Les Juifs sont donc conscients qu'il y a deux entités, l'une supérieure et l'autre subalterne. Comme nous l'avons observé, le Messie est reconnu comme étant l'entité dans Psaume 45, versets 6 à 7, qui a été oint par son Dieu. Zacharie 2, verset 3 indique que l'ange de Yahovah, qui est ici de toute évidence le Messie, a donné un message à Zacharie concernant sa venue en Israël, conformément à l'ordre de l'Éternel des armées. La distinction démontre clairement que nous parlons du Messie et de Dieu le Père, qui est l'Éternel des armées. Nous lisons dans Zacharie, chapitre 2, versets 8 à 12. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Version de Louis II. La distinction entre le Yahovah d'Israël, qui est appelé Elohim, et son Elohim, qui est appelé Eloha, ou le Dieu Très-Haut, l'Éternel des armées, est perdue en français, où il n'y a pas d'autre terme pour Dieu. L'attention n'est pas transmise au lecteur. Le Messie héritera Juda comme sa portion dans les derniers jours. Il choisira de nouveau Jérusalem à sa deuxième venue. Ses activités du Messie peuvent être décomposés en sections par séquence. 1. L'incarnation. 2. La séquence des églises. 3. Les derniers jours. 4. La venue du Messie. 5. Le millénium. Voir aussi le millénium et le ravissement, étude numéro 95. 6. Le jugement. Voir les différentes études. 7. La cité de Dieu. Voir l'étude La cité de Dieu numéro 180. Cette étude sert d'introduction à une série d'études sur ces sujets, dont plusieurs sont énumérées ici. Fin de la lecture de l'étude Josué, le Messie, le Fils de Dieu, numéro 134.